on est deux fois plus près, presque 32. Pourquoi? Parce que nous avons quelque chose de plus, pas seulement le côté public, mais on a le côté spirituel en plus. Le fait que nous soyons, que nous sommes musulmans, ça nous oblige à des entretiens, ça nous oblige à nouer des liens entre nous. Vous entendez? C'est comme ça. J'ai dit dans le Coran, il n'a pas le mot, il n'a pas là, les croyants. Les croyants sont des chrétiens. Les croyants doivent être des chrétiens. Les musulmans, parce qu'ils sont musulmans, parce qu'on est entré dans l'islam, automatiquement, on se reconnaît comme des chrétiens. Mais pas, frère, au niveau humain, ça, c'était OK avant. C'est une deuxième couche de fraternité, une deuxième couche. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a plus de besoins en tant que frère. Donc, est-ce que en tant que frère, en tant que musulman, on est des frères? Est-ce qu'on est gratuit? Est-ce que les gens ne devraient pas l'être en tant qu'écrivain? Non. Bon. Si on est en tant que musulman, c'est deux fois plus grave. Si les musulmans sont gratuits, c'est deux fois plus grave. C'est grave parce que ce sont les êtres humains qui ne devraient pas l'être, et c'est grave parce que ce sont les musulmans qui ne devraient pas l'être. Donc on peut faire le problème. C'est pour cela qu'il y a un peu de temps. Quand je dis, il y a une mosquée sur la Kaaba pour faire la Kaaba. Quand le prophète il a pris la lettre. Les Arabes qui n'étaient pas musulmans, ils ne
savaient pas. Certains musulmans. Le prophète a dit à Bilal, tu montes sur la Kaaba et tu fais l'Adhan. Blou. Ils ont dit quoi, lui, sur eux? Ils étaient racistes, les Arabes. Pour eux, un noir, c'est un esclave. Le prophète a islam dit pas de différence entre un noir et un blanc, vous êtes tous fils d'Adam et Adam il vient de la terre. S'il doit y avoir une différence entre les êtres humains, c'est une différence au niveau de la piété. Mais le problème de la piété, c'est qu'elle est dans le cœur, elle est invisible. Oui ou non? Donc il n'y a que Dieu qui peut faire la différence entre les êtres humains. C'est-à-dire, il n'y a que Dieu qui a les moyens et le droit de dire Hada il est supérieur à Hada. Et ça on le saura quand? On le saura là-haut. C'est là-haut qu'on saura qui était supérieur à l'autre. Mais sur terre, on est tous égaux. Quand ils ont vu Bilal monter sur la Kaaba faire l'Aden, ils ont dit là c'est trop, là, il exagère. Ouais. Il exagère. Déjà avant, il nous a vu, puisque un jour, ils sont venus, les notables, c'est les bourges. Ils ont dit à Mohammed, écoute, on veut bien s'asseoir avec toi, on veut bien aller à ta conférence, on dit aujourd'hui, mais on ne veut pas s'asseoir par terre avec des SDF. On ne veut pas s'asseoir avec Bilal, avec Ammar ibn Yassir, avec des pauvres. Hein, le peuple, tu sais, le petit peuple. Nous, on est des bourges. Non. Nous, il nous faut une chaise avec réservée, une chaise, un tarsaf. Ouais, c'est quelque chose de puissant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est dit, tiens, pour les attirer à la religion, je vais organiser... une conférence spéciale high class. Ouais. Et tout moi, les pauvres, vous viendrez après ou plus tard. Direct, verset du Coran. Qu'est-ce qu'il dit, le verset du Coran? Wala tatrudi alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin. Ne rejette pas. Ouais. Qui ça? Ceux qui évoquent Dieu matin et soir, car si tu les rejettes, c'est pauvre. Si tu fais une différence entre les pauvres et les riches, tu te dis, je vais attirer les riches, je vais leur donner un statut, t'es foutu. Tous les êtres humains sont égaux. Et le premier qui arrive à la mosquée, c'est le premier qui est servi. La première place appartient à qui? On appartient. Qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam le vendredi? Il dit, si vous arrivez à la mosquée le vendredi, vous n'avez pas le droit de passer au-dessus des gens. Il y a une place devant, tu vas traverser les rangs et aller te mettre devant, tu n'as pas le droit. Tu t'arrêtes là où tu es le dernier, tu t'assois, même si tu es le président de la République. Ali Izetbegovic, rahimahullah, président bosniaque, ouais, premier président musulman bosniaque. Pendant qu'il y avait le siège de Sarajevo, le Jumu'a, il s'en va à la mosquée. Il arrive à la mosquée elle est pleine. Il se met derrière, il fait deux rak'at. Quand les gens ils l'ont capté, poussez-vous, faites un, c'est un passage pour qu'il passe et qu'il vienne se mettre devant, en dessous du minbar chez l'imam. Il finit sa prière, puis les gens, il leur dit, arrêtez, il est calme, continue. Et après il s'est énervé, il a dit, c'est vous qui poussez vos responsables à devenir des dictateurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous allez à la mosquée, vous vous asseyez là où il y a de la place. C'est le dernier, tu t'assois le dernier. Je suis un musulman comme vous. Si je méritais la première place, bah, il fallait que je vienne le premier à faire classer. C'est bon ou c'est pas bon? C'est puissant. Alors, est-ce que le musulman il peut être raciste? Il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit, on est tous les mêmes. C'est pour cela. Quand le gouverneur de la Mecque a décidé d'aller à Médine pour voir Omar ibn al-Khattab, Omar lui dit, mais t'as laissé qui à ta place? T'as quitté ton poste? On dirait nous aujourd'hui, le préfet vient à Médine pour voir le président de la République, et Omar lui dit, t'as laissé qui? C'est qui le sous-préfet qui te remplace? Il lui a dit, Ibn Abi Abza. Il lui a dit, je connais pas celui-là. Il dit, ben, c'est un esclave. Il lui dit, t'as mis un esclave à la tête de la Mecque. Il a l'air de dire, les Arabes, ils vont pas accepter, ils sont encore... Qu'est-ce que lui dit le gouverneur de la Mecque? Il lui a dit, Wallah, il connaît le Coran par cœur, et il a la science. Et là, Omar a dit, Ahsan. Dieu élève les gens avec ce livre, ouais, ceux qui l'ont, qui le pratiquent, Dieu leur donne de l'importance, et il rabaisse des gens à cause de ce livre, ceux qui ne l'ont pas. C'est-à-dire, cet homme qui aux yeux de certaines personnes n'a pas de valeur, il a de la valeur où? Aux yeux de Dieu et aux yeux des musulmans. Pas parce que c'était un esclave. Non, c'est pas un esclave. C'est un homme, et c'est un homme qui a... Qu'est-ce que dit le calife Souleyman? Il dit, il n'est pas permis à un savant de répondre aux questions des gens lors du pèlerinage en présence de Ata ibn Abi Rabah. Qui est Ata? Ata ibn Abi Rabah, il disait qu'il avait sept défauts physiques. Ouais, sept défauts physiques. Quand tu le regardes, tu fais sept remarques. Ouais, son nez, sa jambe, ce que tu veux. Et pourtant, Ata, c'était le premier. Il était au top. Tout le monde devait, tous les savants, ils étaient en dessous de lui. Pourquoi? Parce qu'il était blanc? Non, il n'était pas blanc. Attends. Parce qu'il était grand? Non, il était petit. Parce qu'il était bon? Il faisait peur. Malakin, nous, comment on juge les gens? On ne les juge pas par rapport à l'aspect extérieur. On juge par rapport à ce qu'ils ont, hein, de grand, de beau. Hein, c'est la valeur. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un être humain? C'est quoi? C'est sa beauté intellectuelle, sa beauté spirituelle, sa beauté morale. Donc on n'a pas le droit d'être raciste, on est d'accord? Oui ou non? Est-ce qu'en tant que musulmans, on peut nous séparer ou nous diviser à cause des origines ethniques, géographiques? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aide ton frère et défends-le quand il a raison et quand il a tort. Prophète, le défendre quand il a raison, je veux bien, mais quand il a tort, non, t'exagères. Il a dit, si, défendez, aidez votre frère quand il a tort, et l'aider quand il a tort, ça veut dire l'empêcher d'avoir tort. Pourquoi il a dit ça? Parce que les Arabes, comment ils se comportaient avant l'islam? Tu fais partie de ma tribu? T'es mon frère, c'est ça? Je tiens avec toi dans n'importe quel cas de figure. Tu commets une injustice, je suis à tes côtés. Tu subis une injustice, je suis à tes côtés. Pourquoi? Parce que tu fais partie de ma tribu. Et ça, c'est du racisme, c'est du nationalisme, c'est du tribalisme. Le prophète change, il dit, tu tiens avec ton frère parce qu'il est de ta tribu? Non. Tu tiens avec ton frère quand il a raison. Et quand il a tort, ça devient ton ennemi. Ouais. Tu ne tiens plus avec lui. Eh oui. Et ça, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les musulmans, ils se soutiennent, ils s'entraident en fonction de quoi? En fonction des affinités. Au lieu que ce soit des affinités religieuses, spirituelles, des affinités basées sur la justice, ouais, je tiens avec toi parce que tu as raison. Vous savez quels sont les critères, les affinités? C'est parce que tu es de la même nationalité, c'est ça? La même origine, la même tribu. Moi je le vois, hein, parfois quand je m'en vais dans mes villes, salam alaykoum, alaykoum salam. Elle me tue cette question. T'es d'où? Je leur dis, bah, je suis du nord. Où ça dans le nord? Ah, Valenciennes, ça vous dit quelque chose? Non, non, au bled. Hein? Je dis, non, moi je suis né en France, j'ai grandi en France. Et je ne veux pas répondre. Ouais? Parce que, bon, en vérité, je suis nulle part au bled, moi je suis de France. Ouais? Mais je sais ce qu'il veut dire. T'es d'où, ça veut dire. Ah, le pays de tes parents pour moi, parce que je suis né ici, je grandis ici. Et je ne veux pas leur dire. Pourquoi je ne veux pas leur dire? Parce que ça m'énerve. Parce que quand tu lui dis je suis du sud du Maroc, ah, pour des bons gens, le sud du Maroc, ouais. Quand tu lui dis je suis du nord du Maroc, ah, sont de bonnes gens, le nord du Maroc. Quand tu lui dis je suis algérien, il dit ah, les Algériens, Argel. Et quand il est avec quelqu'un d'autre, vous la connaissez celle-là, non? Quand on joue au foot, t'es quoi, Mathieu? Je suis marocain. Ah, les Marocains, ils sont bien algériens, ils sont mauvais. Hein. Deux secondes après, tu dis, je me suis trompé, je suis algérien. Ça ne vous est jamais arrivé, ça? Ça nous est arrivé, même au travail. T'es quoi, toi? Je suis tunisien. Oh, les Tunisiens, ils sont super. Moi, j'aime pas les Algériens, j'aime pas les Marocains. Je suis marocain. C'est ça qui existe entre nous. Vous vous rendez compte? Ça ne veut pas rentrer dans ma tête. Deux mosquées. L'une, elle a une nationalité qui s'appelle l'Algérie, l'autre, une nationalité qui s'appelle le Maroc. Deux mosquées. Ça ne veut pas rentrer dans ma tête. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas. On n'est pas d'accord. Subhanallah, même dans la famille, non, on n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ma femme, je ne suis pas d'accord avec mes enfants, avec mes frères, avec mes soeurs, avec mes parents. Ça arrive ou ça n'arrive pas? Mais je ne suis pas d'accord avec mon frère musulman. C'est possible, c'est normal, c'est naturel. Ça doit me pousser à faire une autre mosquée, je ne prie pas avec lui. Quand il y a des élections, on ne va pas tourner autour du pot, non? Il y a des élections pour représenter la religion musulmane en France, c'est quoi les listes? Liste marocaine, liste algérienne. Oh là, ça ne veut pas rentrer dans ma tête. C'est la religion. La religion, elle n'a pas de nationalité, lui ou non? Avant, nos parents ne disaient pas de politique. Oui ou non? Ils ne disaient pas de politique. Dans la religion, il n'y a pas de politique. Ah, ils t'ont mis la politique dans la religion. Tandis, liste marocaine, liste algérienne. Regardez. Quand ça les arrange, ils mélangent la politique. En fait, tu sais ce que ça veut dire? Pas de politique chez nos parents. Ça veut dire qu'il ne faut pas être en opposition avec les dictatures. C'est ça que ça veut dire, hein? Pas de politique chez nos parents. Mais eux, ils sont à fond dedans. Ils sont à fond dans le politique. Vive le roi, vive la reine. Le roi est mort, vive le roi. Ouais. Et ils t'ont mis de la politique dans la religion. C'est pour ça que... Il y a un homme extraordinaire, que Dieu le protège. Il est entré dans une mosquée une fois, puis il a trouvé un cadre avec une photo. De qui? D'un chef d'un pays musulman. Dans la mosquée. Normalement, la photo du président, tu la trouves où? À la mairie, c'est ça? À l'Élysée, à la préfecture. Allez, il rentre dans la mosquée, il trouve quoi? Il trouve la photo du président dans la mosquée. Vous savez ce qu'il fait? Il s'en va, il prend la photo, il la met par terre, il la casse, il marche dessus, il la jette. Elle bloue, les nationalistes là. Ils sont devenus fous. Ils leur dit, t'es contre le président. Il leur a dit, je suis contre le président quand il est à la mosquée. Mettez-le dehors, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien à faire ici. Il n'y a rien à faire. Pourquoi tu mets la photo du président X ou les Y? C'est la photo de Dieu qu'il faut mettre. Hein, on n'a même pas le droit, ça n'existe pas. Oui ou non? C'est la photo du prophète qu'il faut mettre. On n'a pas le droit. Et où il nous met la photo d'un homme? Et qu'est-ce que ça crée, ça? Ça crée, là? Ah, toi, tu mets la photo? Bah, non, je vais mettre la photo de Jacques Chirac. Bah, on va s'en sortir? Tu rentres dans des mosquées, tu trouves Une plaque là, en marbre, inauguration. C'est ça? Vous voyez quoi, une épitaphe là? Mosquée inaugurée tel jour, tel mois, telle heure, par qui? Par. Ah, c'est quoi ça? C'est la mosquée d'Allah? Ou c'est la mosquée de tel pays ou tel pays? Le nationalisme existe entre nous. Hein? T'es mon frère, c'était de la bonne nationalité. Mais pire, c'est même plus du nationalisme, c'est du tribalisme. Tu trouves dans des mosquées des disputes entre des gens de la même nationalité. Hadé il est du nord, Hadé il est du sud. Dans une mosquée, dans le nord, pour pas la citer, mosquée X, ils sont allés jusqu'au tribunal. Jusqu'au tribunal. Hein. Ils se sont bouffés la gueule dans la mosquée. Ils n'ont pas réussi à s'entendre. Ils sont allés au tribunal, chacun a pris des avocats, ils ont dépensé des millions. Et ils sont du même pays. Et ce problème, c'est que Hadou, ce sont des Arabes et les autres des Berbères. Regardez le racisme. Arabes, Berbères. Arabes, Berbères. Ils sont encore dans le schéma. Et ça marche, regardez dans les pays musulmans. Tout ça pour les diviser. Alors que tous les deux sont musulmans. Ils ont le même Dieu, le même prophète, le même Coran, la même Qibla, la même tronche. Mais ils n'ont pas le même cœur. Et vous voulez qu'on avance comme ça? On n'avancera jamais. C'est pour cela.
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم من بعد إيمانكم كفارا.
C'est ça? Ô vous qui croyez, si vous obéissez à une partie de vos ennemis, vous allez redevenir des mécréants. Parce que l'ennemi, entre autres, c'est quoi? يردوكم من بعد إيمانكم كافرين. C'est quoi son but, l'ennemi? C'est diviser pour régner. Et comment il fait pour nous diviser? Toi t'es marocain, moi je suis algérien, toi t'es tunisien. Toi t'es berbère, toi t'es arabe. Toi t'es sunnite, toi t'es chiite. C'est ça? Toi tu es démocrate, toi tu es royaliste. El-Mohem, il va te chercher des poux, et si t'en as pas, il va en ramener, il va te les mettre. Pourquoi? Pour que tu bouffes la tête de ton frère. Regardez, si vous obéissez, je vais vous lire en français, comme ça vous ne direz pas que c'est moi qui traduis mal. Ô les croyants, si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le livre, il vous rendra mécréant après que vous ayez eu la foi. Pourquoi ce verset a été révélé? Pourquoi? Je ne sais pas comment vous l'avez compris. Peut-être que vous avez compris, si j'obéis à l'ennemi, il va faire de moi un mécréant. C'est-à-dire, je suis musulman, il va tout faire pour me sortir de l'islam. C'est comme ça que vous l'avez compris? Ben, vous allez le comprendre autrement quand je vais vous dire pourquoi il a été révélé ce verset. Pourquoi il a été révélé? Parce que à Médine, vous aviez deux tribus. Les Aous et les Khazraj. Attention, hein, leur ancêtre est le même. Leur ancêtre. C'est le même. Mais avec le temps, Aous et Khazraj, ils se font la guerre. Et il y a d'autres tribus à Médine qui fabriquaient des armes et qui vendaient les armes. Ouais, ils vendaient les armes aux Haus et aux Khazraj. Certains, ils tenaient avec les Haus, ils les excitaient. D'autres, ils tenaient avec les Khazraj. Les Khazraj, ils les excitaient. Et les Haus et les Khazraj se faisaient la guerre avec les armes que leur vendaient les autres. Quand l'islam est arrivé, le prophète leur a dit, vous êtes ni des Haus ni des Khazraj. Vous êtes d'abord des croyants, vous êtes des frères. Et après, votre carte d'identité, vous mettez ce que vous voulez dedans, j'en ai rien à faire. Un jour, un vendeur d'armes, quand il a vu que son commerce commençait à péricliter, il a regardé comme ça un groupe de Haus et de Khazraj. Pour lui, maintenant c'est un groupe de musulmans. Il a dit, ah, ça va pas, cet amour, cette fraternité, cette union qu'il y a entre eux. Il attrape son pote, il lui dit, tu sais ce que tu fais? Tu vas te taper un cruce, tu parles avec eux et tu leur rappelles les guerres intestines qui existaient avant. Tu sais, tu les allumes. Il est parti. Chassé de Loukaïs, il s'appelle. Et il les a allumés. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait, ces musulmans? Ils ont commencé à se disputer. Les Haus ont dit au secours, nos frères les Haus. Les Khazraj ont dit au secours, nos frères les Khazraj. Ils sont rentrés chez eux, ils ont commencé à prendre leurs armes pour revenir pour se battre. Si vous obéissez à qui ? À vos ennemis, vous allez redevenir des mécréants. C'est ce que ça veut dire, vous allez redevenir des mécréants. C'est-à-dire vous allez redevenir des êtres humains qui vous faites la guerre. Dieu a considéré le fait que l'on se fasse la guerre comme de la mécréance. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Et comment pouvez-vous ne pas croire alors que les versets d'Allah vous sont récités et qu'au milieu de vous se tient son messager? Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin. Comment vous faites pour vous disputer, vous diviser bande de musulmans alors que vous avez le Coran avec vous qui est clair et qui est net, qui vous dit qu'il n'y a pas de différence entre un noir et un blanc, vous êtes tous des frères? Comment vous faites? Vous mettez le Coran de côté alors que vous êtes censé et vous prétendez y croire et le suivre? Pourquoi vous faites ça? Il vous faut là, ça franchement, vous ne trouvez pas? Non mais parfois tu dis ces musulmans, il faut les formater. C'est pas possible. Un mec qui fait la prière, il est musulman, tu viens, tu t'assois avec lui autour d'une table. Il te dit, on va s'unir, nous, les Marocains. Je lui dis, ben non, on n'est pas Marocains, on est musulmans. Il dit, si, on est Marocains et après musulmans. Je lui dis, non, on est d'abord musulmans et après le reste, on s'en fiche. Vrai ou faux? Pourquoi tu crois que tu vas rentrer au paradis plus vite parce que tu es Marocain ou Algérien? Vous croyez ça, vous? Si vous croyez ça, vous êtes mécréant. Hein. Tu crois que tu vas être pistonné? Parce que t'as le passeport, on croit que là-haut ça marche comme ici. Bakshish, Rchoua, je connais un tel, je connais le fils de la grand-mère du truc. N'importe quel, je sais pas comment les musulmans ils passent. Tu dis au mec, tu dis non, on va faire une union des mosquées musulmanes. Vous avez vu comment je suis obligé de parler? Une mosquée musulmane, une mosquée elle est mosquée. T'as pas besoin de l'appeler musulmane, non? Mais si, t'es obligé de dire aujourd'hui c'est une mosquée musulmane. Parce que t'as des mosquées marocaines, des mosquées algériennes, des mosquées tunisiennes, des mosquées turques, des mosquées trucs. Vous pigez, t'es obligé de dire l'union des mosquées musulmanes. Comment on dit? Un pléonasme, c'est ça? Hein? Je vais descendre en bas. La mosquée, c'est... Là. Mosquée marocaine. Tu deviens pas fou, toi, avec ce genre de musulman? Allah, il est bleu qui te rend fou. Regardez. Ya ayyuhalladhina amanu, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Ce verset, vous l'entendez tous les vendredis, vrai ou faux? Oh, vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine. Quelle doit être votre nationalité quand vous allez mourir? Muslimun. Regardez, ne mourrez que muslimun. T'es fou toi. Un mec avant de mourir, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anni maghribi, jazairi. Ouais, t'as de la... Il ne le dit pas comme ça, mais la réalité de tous les jours, c'est ce qu'elle prouve, non? C'est parce qu'elle prouve la réalité de... Vous voulez que je vous fasse de l'histoire? Vous voulez que je vous montre dans l'histoire ce que les musulmans ont fait? Alors, donc, quand l'Espagne était musulmane, les musulmans, c'est pourquoi les rois catholiques, ils ont repris l'Espagne, ils ont bouffé du musulman pendant 200 ans. Mais attache-moi, pourquoi? Pas parce qu'ils étaient plus forts, c'est parce que les musulmans étaient faibles. Pourquoi les musulmans étaient faibles? Parce qu'ils étaient divisés. Pourquoi ils étaient divisés? Parce que certains, ils ont dit nous sommes des Arabes. Et les Arabes eux-mêmes se sont divisés en deux. Les Arabes de Qais et de Mondar. Les Arabes de Qais et de Mondar. Les Arabes du Sud, les Arabes en Espagne. Hein, la division qui existait chez les Arabes en Arabie, ils l'ont transférée en Espagne. En Espagne, vous aviez les Arabes de Qais et de Mondar. Troisième groupe, vous aviez les Berbères. Quatrième groupe, vous aviez les deuxièmes générations. Les Mualladoun, ceux qui sont nés sur place et qui eux-mêmes se sont coalisés. Quatre groupes qui s'entre-disputaient, qui se faisaient la guerre, et les rois catholiques, ils en ont profité. Il faisait la paix avec Hada, un pacte avec lui pour combattre l'autre. Et l'autre, c'est ton ennemi, hein. Ouais. Non, les Marocains, toi, t'as dit, ah, les Algériens, ils sont bons. Ouais. Tu veux te débarrasser des Marocains, je suis avec toi. Et à deux, on s'en va, on fait la guerre aux Marocains, on les massacre. Et puis, une fois qu'on les a massacrés, les Algériens, ils sont mauvais. Je te massacre, t'es redevenu tout seul. Vous figez comment ça a marché en Espagne? Mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on doit. Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Huwa sammakum al-muslimin. Ibrahim, il nous a donné une nationalité. Il nous a dit, vous êtes des musulmans. Et vous devez mourir comment? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la. Ah, regardez. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble de Dieu et ne soyez pas divisés. Allez, accrochez-vous tous à la corde, la bouée de sauvetage que Dieu vous a tendue. C'est quoi? Voilà. Ouais. C'est-à-dire, vous devez tous regarder dans le même sens. Vous avez le même livre, les mêmes idées. Mais si on a les mêmes idées, on est tranquille, oui ou non? On pense de la même façon. On a les mêmes repères, les mêmes garde-fous. Bah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, on est tous des frères. On n'est pas marocains, algériens, tunisiens. C'est ça? On n'est pas blanc ou noir. Ça veut dire accrochez-vous tous au câble, c'est-à-dire Dieu vous a lancé une bouée de sauvetage. Il vous a donné un livre qui vous dit comment penser, comment vous comporter, comment être unis, comment être des frères. Accrochez-vous, montez dans ce bateau, sinon vous allez tous couler. Vrai ou faux? Voilà. Regardez. Est-ce que vous croyez que si les musulmans en France, ils étaient un peu plus unis, on oserait vomir sur nous comme on a vomi sur notre prophète aujourd'hui? Vous pensez que ce serait possible? La question va arriver. Les caricatures, qu'est-ce qu'il fallait faire? Allah, tu sais ce qu'il faut faire? Il faut être des frères, être unis. Il suffit qu'on soit frères unis, on sera respectés. Pourquoi? Parce que on est tellement nombreux que les autres sont obligés de nous respecter parce qu'on est fort, on est nombreux. Mais si on est divisé, liste des Marocains, liste des Algériens, liste des Turcs, qu'est-ce qu'il y a encore comme liste? Liste des Comoriens. C'est pas ça qui est aux dernières élections du conseil représentatif des musulmans de France? Et wallah, chacun il se réunit pour combattre l'autre. Vous entendez? Ils se réunissent pour faire quoi? Pas pour dire on va faire ça. Non! Ils se réunissent pour dire comment on va faire pour que l'autre ne gagne pas. Et une fois que les élections sont terminées, c'est tout. Ouf, on a gagné, c'est bon. On rentre chez nous. Je suis obligé de dire ça parce que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe derrière. Je vous le dis pour que vous sachiez que c'est la réalité de l'islam de France et des musulmans de France. Au moins, c'est exactement ça qui se passe. Ils complotent contre leurs frères musulmans. Les autres, quand ils voient ça, tu peux les bouffer, les musulmans. Comme le taureau noir et le taureau blanc. Vous connaissez l'histoire du taureau noir et du taureau blanc? Le lion, il veut manger du beefsteak. Il capte deux taureaux. Il s'en va les attaquer, les deux taureaux. Ensemble, ils mettent leurs cornes. Le lion, il n'y arrive pas. Matin, midi et soir, il essaie, ils sont unis. Ils ont une stratégie commune. Ils ont un objectif, c'est la survie. Le lion, il en a marre. Il a essayé avec la force, il n'a pas réussi. Il dit, je vais tenter la ruse avec les Arabes, ça marche. Il attrape le taureau blanc, il dit, écoute, moi il ne faut qu'un taureau. Je n'ai pas besoin de deux. Un, ça me suffit. Laisse-moi bouffer ton frère et je te laisse tranquille. Parce que si je ne bouffe pas, je vais vous empêcher de vivre tous les deux. La rôle, il rentre chez lui, il réfléchit. Il dit, ouais, c'est vrai. C'est l'enfer depuis que le lion a faim. Et le lendemain, le lion attaque. C'est ce que fait le taureau blanc. Il dort. Le noir, il lui dit, hey, debout, il arrive l'autre. Il lui dit, vas-y, j'arrive. Le taureau noir, Mcha, il s'est fait bouffer. La chore est chauffée. Oh, j'aime la couler douce. Le lion, il a fini, c'est lâché les babines. Et le dessert. Il s'en va chez le taureau. Il lui dit, c'est toi mon dessert. Il lui dit, bah, tu m'as dit que... Une espèce de... Goune, t'as rien compris. Ouais. Ouais. Hein, vous avez vu l'histoire? C'est exactement ça qui se passe. Vous savez comment ça s'est passé? C'est, vous, vous êtes modérés, c'est ça? Hadou sont les intégristes. Hadou, ils sont modérés, hadou, intégristes. Hein, quand quand la nationalité, ça ne marche pas, on te sort des étiquettes. Les intégristes, les modérés. C'est ça? Les fondamentalistes arriérés et les laïcs modernes. C'est ça? Vous, vous êtes mignons, vous êtes gentils, vous, les subventions, la télé, tout, vous aurez tout. Mais attendez, si vous voulez tout ça, vous bouffez Hadou. Hadou, on n'en veut pas. Hadou. Ils sont dangereux. Ils ne savent pas faire. Ils ne descendent pas de la tribu des Béni-Oui-Oui. Non, dans leur sens, c'est non, je ne suis pas d'accord. Ben ça marche. Les Béni-Oui-Oui, ils se sont retrouvés et ils ont fait une stratégie. Comment faire un croche-pied à ceux-là pour qu'ils ne réussissent pas? Les ennemis de la veille sont devenus des... Wallah, ils se bouffaient la gueule, Marocains, Algériens, et tout d'un coup, ils sont assis autour d'une table, ils se sont dit, on va faire la paix et l'amour contre les intégristes. Et ils ont fait la paix et l'amour contre les intégristes. C'est pas possible. Vous êtes des ennemis, vous bouffez la gueule, vous insultez, vous faites des coups bas, toutes les arnaques. Et toute leur haine, leur hostilité, leur division, elle a disparu pour qu'il y ait une union sacrée contre eux. Ça marche. Résultat, ils vont tous se faire manger. La preuve, regardez. C'est bien, on a tous le même prophète. Regardez comment il nous salisse. On t'arrête. Bref, tout ça, pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que au-dessus de nos couleurs, de nos origines, de notre barre, de notre pif, il y a quelque chose de sacré qui s'appelle « Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu » Ne vous divisez pas. La nationalité doit nous diviser. La couleur doit nous diviser. Regardez. Et rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous. N'oubliez pas. N'oubliez pas quoi? Le bienfait de Dieu. C'est quoi le bienfait d'Allah sur nous? C'est quoi? C'est que, regardez, malgré toutes nos divergences, nos différences, on est tous ensemble, assis. C'est ça? Ouais. Pas de différence. On est tous des frères. Regardez. L'islam nous a mis sur le même pied d'égalité. On s'est tous dit salam alaykoum, non? Regardez. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Rappelez-vous, bande de Haus et de Khazraj, vous étiez des ennemis. Et Dieu, il a réconcilié vos cœurs. Pas vos corps, vos cœurs. C'est-à-dire, vous aviez la haine dans le cœur, vous faisiez la guerre, et Allah, il a remplacé la jahiliya, l'ignorance, le nationalisme, le racisme qui était dans vos cœurs, il l'a remplacé par quoi? Par la foi. Et bizarrement, vous êtes devenus des aimants, vous êtes attirés. Alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvé, et ainsi Allah vous montre ses signes afin que vous soyez bien guidés. Vous étiez au bord du feu, c'est-à-dire vous étiez en enfer, en vous faisant la guerre, en vous disputant, en vous divisant. Et Dieu vous a repêché pour vous mettre où? Pour vous mettre au paradis, le paradis de l'union, de la fraternité, du respect mutuel. Et en fait, pour tout vous dire, si on n'a pas la foi en Dieu comme il se doit, si on ne respecte pas Allah comme il se doit, il est tout à fait normal qu'entre nous, il n'y ait pas de bonne relation. Parce que celui qui a peur de Dieu, ben, il fait attention, vrai ou faux? Il fait attention quand il parle, il fait attention quand il regarde, il fait attention quand il salue, quand il s'assoit. Notre problème, c'est quoi? C'est qu'on est en guerre avec Dieu, donc automatiquement, on est en guerre avec qui? Avec tout le monde. Vous entendez? C'est pour cela, sans arrêt, Dieu nous dit « Ittaqullah », craignez Dieu. C'est-à-dire, craignez Dieu, ayez peur de lui, car la peur de Dieu, c'est ce qui va vous empêcher de quoi? De désobéir à Dieu. Et c'est quoi la désobéissance à Dieu? C'est le fait de ne pas être des frères unis. Non. Celui qui craint Dieu, il s'assoit autour d'une table, il va avancer un projet au nom du nationalisme, au nom de la nationalité? Non. Il va avancer un projet au nom de quoi? Au nom du bien, au nom d'Allah. Mais celui qui ne craint pas Dieu. Moi, ça m'est arrivé. J'ai fait une réunion une fois avec des gens pour faire une union des mosquées du Valenciennois. Premier point qu'on a abordé, c'est comment on va l'appeler? Il y en a un, il dit, on va l'appeler l'union marocaine des mosquées du Valenciennois. Le deuxième, il dit, on va l'appeler l'union des mosquées marocaines du Valenciennois. Le troisième, ça c'est la blague, l'union des mosquées du Valenciennois marocain. D'accord? Même le Valenciennois, ils l'ont converti. À mon tour, je leur dis, pourquoi vous mettez marocain? Dites tout simplement l'union des mosquées du Valenciennois. Logique ou pas logique? Pourquoi tu veux que les mosquées elles aient une carte, un passeport? Et innamal masajidani lillah, les mosquées, c'est la mosquée de Dieu, on dit bien c'est la mosquée d'Allah, oui ou non? Vous savez ce qu'il dit le mec? Il dit, donc quoi ça te dérange si c'est marocain? Je dis, un, ça me dérange parce que c'est pas vrai, c'est pas marocain, c'est musulman. D'accord? De deux, si tu dis union marocaine des mosquées marocaines du Valenciennois marocain, bah, s'il y a une mosquée qui n'est pas marocaine, ça veut dire qu'elle ne pourra pas adhérer. Et le but de l'islam, c'est que tous les musulmans soient unis. C'est pas un groupe. Parce que si tu fais un groupe uni et les autres ils font un groupe uni, ça fait deux groupes qui s'opposent. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, oui, bah, le but c'est ça. C'est que les autres n'adhèrent pas. Allah l'adim, il m'a dit ça. Question, tu sais, je fais la gona. Je dis, et pourquoi ils ne doivent pas adhérer? Pourquoi ils ne doivent pas adhérer? Vous savez ce qu'il dit? Il dit, parce qu'ils sont dangereux s'ils rentrent. Je dis, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils rentrent? Mais ils vont faire le boxon. Moi, je dis, bah écoute, c'est tout simple. Ouvre cette union à tout le monde, les mosquées marocaines, algériennes, tunisiennes, juives, chrétiennes, bouddhistes. Ouais. Et puis une fois qu'ils sont à l'intérieur, on dialogue, on discute, oui ou non. Et si la majorité l'emporte, ben c'est la majorité. Et comme la majorité des mosquées dans ta tête, elles sont marocaines, donc tu auras toujours la majorité, tu n'as rien à craindre. Puisque dans le Valenciennois, tu as trois mosquées algériennes, et puis tu as le reste, soi-disant, marocaine, ce qui n'est pas vrai, hein, mais admettons. Je dis, comme c'est la majorité elle l'emportera, tu n'as rien à craindre. Il me dit non. Regardez, même dans une union des mosquées où il y a un groupe qui a la majorité, il ne supporte pas l'existence et la présence de l'autre. C'est épidermique, vous entendez? Si je tremble quand je vois l'autre qui n'est pas de la même nationalité, si je ne supporte pas sa présence, j'ai pris mes affaires, je les ai rangées et je suis parti. Parce que c'est un péché que de s'asseoir à une table où des musulmans sont en train de se mettre d'accord contre des musulmans. C'est un péché ou c'est pas un péché? C'est un crime contre la communauté. C'est un crime, hein? Parce que c'est contraire avec les béabas de l'islam. Donc, il y avait une fraternité, quoi, humaine, une fraternité intra-communautaire, c'est ça, hein, islamo-islamique. Et ça t'impose des devoirs. Et vous les connaissez, les devoirs des musulmans vers les musulmans, c'est ça? C'est la salutation. Hein. On doit se saluer, salam alaikum. Mais bien se saluer, ouais. Pourquoi tu lui tends la main puis tu regardes à côté? Demandez aux gens si ça blesse pas. Ça blesse ou ça blesse pas? Ça blesse, hein. Mais même tu dis salam alaikum, il ne te calcule pas, il regarde ailleurs. Et admettons que tu tends la main à quelqu'un, tu dis salam alaikum, puis il y a quelqu'un qui t'interpelle, tu te retournes, lâche pas la main de ton frère. Ouais. Fais l'urgence, et après tu reviens à lui et tu le salues, en lui donnant de l'importance et de la valeur. Parce que la salutation, c'est une manière de quoi? D'entrer en contact. Si le premier contact est bon, le reste est bon. Si le contact n'est pas bon, qu'est-ce qui se passe? Tu fous tout en l'air. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas permis aux musulmans de saluer une personne dans un groupe. Il y a des gens qui sont assis, tu rentres, tu t'en vas direct, Vers une personne, tu la salues et les autres, tu ne les salues pas. Le prophète a interdit ça. Pourquoi ? Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les autres, ils valent. Ouais. Ou bien, Hada, tu le salues d'une manière et l'autre, tu le salues. Non. Il faut que la salutation, elle soit reflet du respect, de l'attention et d'un minimum de fraternité. D'accord ? Et tu salues avec douceur. Hein. Parce qu'il y en a quand ils te serrent la main, je ne te dis pas. Oh là là. Tu te demandes si c'est une salutation ou là, si c'est une vengeance. Parce qu'ils ne sentent pas leur force. Hein. Ou bien il y en a certains, c'est de l'amour. Ils t'aiment tellement qu'ils te saluent jusqu'à ce que tes yeux sortent de leur orbite. Voilà. Moi, il m'est arrivé un frère, il m'a pris dans ses bras. Quand il m'a lâché, ma respiration, je ne vous dis pas. D'accord ? Oui, il y en a quand ils te saluent, c'est Salam alaikum, la basse d'Ikhir, la basse, tu vas bien, alhamdulillah. Tu sais même pas ce qu'il te dit. Hein? Tu sais pas ce qu'il te dit. Ou bien, tu n'as même pas le temps de lui dire je vais bien, il te dit tu vas bien. En fait, la salutation, c'est devenu quoi? C'est devenu des automatismes et des formules. De la fausse politesse. Hein? De la fausse politesse. C'est pour ça, il y a un saint qui disait quand je salue mon frère, je n'ose même pas lui dire comment tu vas. On lui dit pourquoi ? Il dit, et s'il me dit je vais pas bien ? Faut que j'assume. Eh oui. Alors s'il lui dit comment tu vas ? S'il dit bah j'ai un problème. Ah, tant mieux pour toi, salut. Si tu le salues, ça veut dire quoi ? C'est comment tu vas ? Ça veut dire que tu te soucies de. Non, comment tu vas ? Virgule. Comment tu vas, c'est une virgule. Deuxièmement, quand il éternue, tu lui dis Alhamdulillah. Tu fais une invocation pour lui. S'il dit Alhamdulillah, c'est ça. Troisièmement, quand il t'invite et que tu peux répondre à son invitation, tu réponds à son invitation. S'il décède, tu pries sur lui, tu assistes à son enterrement. Vous les connaissez, non, les devoirs? Si vous ne les connaissez pas, vous prenez n'importe quel livre sur les devoirs du musulman vers le musulman, il vous le dira. Mais sinon, le minimum, c'est de se respecter, c'est ça? C'est de s'accepter. C'est de. En fait, les savants disent qu'il y a des degrés dans la fraternité. Il y a le plus bas degré, il y a le plus haut degré. Vous savez, c'est quoi le plus bas degré de fraternité? C'est ne pas souhaiter le mal à ton frère. C'est ça ? Ça, c'est le minimum vital. Tu ne lui souhaites pas du mal. Tu ne penses pas du mal de lui. C'est quoi le plus haut degré ? C'est tu le préfères à toi. L'altruisme. Et entre les deux, il y a des niveaux. Il y a encore plein de choses à dire, mais il y a une horloge là-bas, elle va trop vite. Je ne sais pas si c'est elle qui déconne ou si c'est le temps qui va vite aujourd'hui. Mais c'est sans pitié. Hein. Je vais m'arrêter ici. Si vous avez des remarques, des critiques, des questions, des suggestions. On est en démocratie, n'oubliez pas. Chacun est libre de dire ce qu'il pense, ce qu'il veut, dans le cadre du respect mutuel. Wallahu a'lam wa alhamdulillahi rabbil alamin. En bon français, c'est quoi la différence entre chiite et sunnite? Comment se comporter? Il ne faut pas idéaliser les musulmans. Hein. Ce sont des êtres humains comme les autres, avec des qualités, des défauts, avec des faiblesses, avec un héritage culturel, cultuel, etc. Deuxièmement, personne ne peut nier que malgré tout ce qu'on dit, il reste toujours que les musulmans ont des divergences qui datent pas d'aujourd'hui mais qui remontent à longtemps. Et j'ai envie de vous dire que c'est pas la fin du monde. La preuve, ça existe depuis longtemps, on existe toujours. Le problème, c'est quoi? C'est pas qu'on soit pas d'accord. La problématique, le problème, c'est comment gérer notre désaccord. Vous entendez? Je suis pas obligé de toujours être d'accord avec toi. La preuve, ceux qui sont mariés, vous êtes toujours d'accord avec votre moitié, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Vous êtes bien d'accord que si vous êtes un homme, votre femme, la personne avec qui vous partagez le plus de choses, votre mari avec qui vous partagez le plus de choses, vous n'êtes pas toujours d'accord avec. Il pense comme ça, tu penses comme ça. Et il vous arrive même de vous disputer. Et vous, non. Vous arrive même de vous faire la tête pendant plusieurs jours. Vous arrive même de vous faire du mal. Et vous arrive même de divorcer. Regardez. Croyant, musulman, 20 ans de mariage, tu peux divorcer. Mais le problème, c'est pas de divorcer, c'est comment tu divorces. Qu'est-ce que dit le Coran? Il dit Imsakun bi ma'ruf ou tasrihun bi ihsan. Si vous restez ensemble dans le bien, si vous devez vous séparer, séparez-vous dans le bien. C'est tout, on s'entend plus. Salam alaikum. Alaikum salam. On est d'accord? Donc, le fait que les musulmans ne s'entendent pas parfois sur certaines choses, c'est pas la fin du monde, c'est normal, c'est naturel. Mais il y a un minimum vital, vous entendez? Il y a des bases sur lesquelles on doit tous être d'accord. Après, il y a des choses sur lesquelles on peut ne pas être d'accord. Alors, il faut gérer notre désaccord. Et c'est quoi la règle pour gérer notre désaccord? C'est quoi? C'est la règle que nous a enseigné Hassan al-Banna, qu'il a tiré lui-même de Rachid Rida. Qu'est-ce que dit Hassan al-Banna? Il dit « Nata'awanu fima attafaqna alayh » وَيَعْذُرُ بَعْضُنَا الْبَعْضُ فِي مَا اخْتَلَفْنَا فِي. Ça, c'est une règle d'or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les choses sur lesquelles nous sommes d'accord, on les partage et on s'entraide. C'est-à-dire nos points communs, nos convergences doivent nous pousser à nous unir. Et on doit nous unir sur quoi? Sur les choses qui nous unissent. On doit s'entraider sur les choses qui nous unissent. Par exemple, on est tous d'accord ici que il faut une mosquée à Beuvrage. Ben voilà, on est d'accord sur ça. Mais après, vous allez voir, il y en a, ils vont être pour que la moquette soit verte. Il y en a, ils vont être pour qu'elle soit rouge. Oui? Est-ce que parce qu'on n'est pas d'accord sur la couleur de la moquette, qu'on ne va pas faire la mosquée? Non. On est d'accord, donc on va travailler ensemble pour faire la mosquée. Et le problème de la moquette, il faut qu'on trouve une solution. On met moitié rouge, moitié vert. C'est possible. Ou bien on tire au sort. Ou bien on prend ni rouge ni vert. Ouais. Ou bien, quand tu rentres dans la mosquée, on prend des lunettes. Un côté vert, un côté rouge. Vous rigolez. Je m'en fiche, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la mosquée existe. Ton problème de moquette, on veut lui trouver une solution sans se bouffer. Mieux, pas de moquette du tout. Vrai ou faux? Voilà. C'est ça, cette mentalité qu'il nous faut. On se met d'accord sur le vital, l'essentiel, le fondamental. Les détails, on leur trouvera une solution dans le dialogue, dans l'échange, dans mille et une façons. C'est une règle en or. Les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, chacun pour soi, Dieu pour tous. Qu'est-ce qui s'est passé après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les musulmans ont choisi un homme qui s'appelle Abu Bakr Sadiq, the best, comme calife. Après lui Omar, après lui Uthman, après lui Ali, après lui Hussein. Et puis à un moment donné, on va avoir au niveau politique, des gens qui ont le pouvoir et qui transmettent le pouvoir à leurs enfants. On appelle ça en français une dynastie, une monarchie. Hein, une monarchie héréditaire, une dynastie. Hein. Je suis au pouvoir, avant de mourir, je laisse un SMS à mon fils, je lui dis, c'est toi qui prends le pouvoir. Et le fils, il laisse à son fils, et le pouvoir reste dans une... C'est-à-dire, le pouvoir ne revient pas à celui qui est compétent, ou celui que les gens ont choisi, mais le pouvoir revient à qui? À celui qui a eu de la chance d'être le fils du chef. Et ça, c'est pas bien, c'est injuste. Oui ou non? Qu'est-ce qu'ont fait certains musulmans? Ils se sont révoltés contre ça. Ils ont dit, on n'accepte pas. Et comme ils sont musulmans, ils se sont révoltés et ils ont apporté des arguments politiques pour dire que c'est pas bien et des arguments religieux en disant que non, ceux qui ont le pouvoir, c'est pas eux qui devraient avoir le pouvoir. Ceux qui devraient avoir le pouvoir, ce sont ceux qui sont le plus pieux, ceux qui font partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les descendants du prophète. Et va se créer dans la communauté un groupe de musulmans, un groupe, un parti. Vous savez comment on dit en arabe? En arabe, un groupe, un parti, on dit shi'a. C'est de l'arabe. Shi'ato veut dire les partisans de, le groupe de. Pour ça on dit shi'it en français, mais en arabe on dit shi'a. Shi'a ça veut dire les partisans de, les adhérents de, le groupe de. De qui? De ceux qui pensent que c'est comme ça qu'il faut gérer les choses. Puis il y en a d'autres qui n'étaient pas d'accord. Et parfois ils vont se disputer, parfois ils vont se taper dessus. Parfois il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de truc. Ils sont d'accord et ce sont les mêmes sur l'essentiel et ils sont divergents sur certains points. Bon, j'entre pas dans les détails parce que ça serait trop long. Mais tout le monde est musulman, tout le monde fait la prière, tout le monde a la même Qibla, tout le monde a le même Coran, le même prophète, la même morale. Mais il y a certaines choses, bah toi tu penses comme ça, toi tu vois les choses comme ça, moi je les vois autrement. Comment gérer nos divergences? On se tolère et on se respecte. Mais si vous obéissez à un groupe, à vos ennemis vont faire de vous des mécréants qui allez vous faire la guerre. Ils vont mettre une bombe dans cette mosquée, ils vont dire c'est eux qui ont mis la bombe. Pour que eux, ils tapent sur eux, ils vont les mettre une bombe dans cette mosquée, ils vont dire c'est eux qui ont mis la bombe pour que eux ils tapent sur eux, et vous allez vous bouffer la gueule, et puis moi je vais prendre votre pétrole. Mieux, je vais vous donner les armes avec lesquelles vous allez vous bouffer la gueule. Ça marche ou ça marche pas? Vous pigez?
On va vous donner une question vite fait. Est-ce que la doha que les anciens font après chaque salat est une invocation du sunna?
Les invocations après les prières?
Doha.
Non, non, c'est la doha.
Doha.
Parce que le A, il n'arrive pas à l'écrire en français. Ça doit être la doha.
Ouais,
c'est ça? La doha, l'invocation. Les invocations, il faut les faire. On est d'accord? C'est la moelle épinière de l'adoration. Oud'uni astajib lakum. Demandez-moi, si vous ne me demandez pas, vous n'aurez rien. Il y a des moments précis où il faut sauter sur l'occasion pour faire des doigts. Tôt le matin, avant la prière de Fajr, par exemple, c'est ça? Le vendredi, quand il pleut, après les prières, dans la prière, entre l'azan et l'iqama. Quand l'imam monte sur le minbar le vendredi, quand vous à la rupture du jeûne, quand vous êtes en voyage, prenez n'importe quel livre sur les invocations, c'est expliqué les moments propices, les endroits propices. Hein? Donc faites des du'a tant que vous pouvez, autant de fois que vous pouvez, au maximum que vous pouvez, après la prière. La du'a vous pouvez la faire tout seul ou vous la faites en groupe, il n'y a pas de problème. Le problème de la doha, c'est pas tellement quand et comment, c'est dans quel état tu es quand tu fais la doha. Il n'y a rien de plus qui m'énerve, moi, si ce n'est que des gens, l'imam il dit, et les gens disent amen, amen, ils grattent le nez en même temps. Ouais. Ils regardent leur montre en même temps. Et ils ne sont pas concentrés. Alors que le prophète alayhi salam a dit, Dieu répondra à votre doha tant que votre cœur sera présent. Si ton cœur n'est pas là, cause toujours. Il faut être concentré. Peut-être que l'autre qui est en train de faire des doigts est en train de vous insulter. Hein? Il est en train de dire n'importe quoi. Donc soyez concentré quand vous faites des doigts, parce que Dieu il répond en fonction de quoi? En fonction de votre attention et de votre concentration.
c'est intéressant. Que dire de la séparation des hommes et des femmes dans une mosquée par un mur, par n'importe quel autre moyen de séparation, ne serait-ce pas un début de scission?
Non, vous savez, dans les mosquées, quand on met un obstacle entre les hommes et les femmes, que ce soit un mur ou un rideau, où les femmes on les met à l'étage et les hommes en bas, c'est pas l'intention n'est pas mauvaise. C'est pas le but, c'est pas de séparer les hommes des femmes pour les séparer ou parce que les femmes elles sont nulles, les hommes ils sont meilleurs. C'est pas ça. Cet esprit, vous savez, de conflit, de compétition entre les hommes et les femmes n'a pas lieu d'exister. Vous entendez cette histoire de faut que la femme soit libre. Ni la femme est libre, ni l'homme est libre. Moi je suis musulman, je suis pas libre. Je suis soumis. Musulman veut dire soumis à qui? À Dieu. Allah il m'a dit c'est interdit, interdit. Ça me plaît ou ça me plaît pas, je suis cuit. Vrai ou faux? La femme aussi, Allah il a interdit des choses, elle obéit. Il lui a dit des choses obligatoires, elle obéit. On pense pas du tout la même chose que beaucoup de gens. Eux ils ont un problème. Pourquoi? Parce que les riches font les lois, les pauvres ils pleurent, c'est ça? Les blancs font les lois, les noirs pleurent. Les dominés font les lois, les colons font les lois, les colonisés pleurent, c'est ça? Les hommes font les lois, les femmes pleurent. Demain, si on a des Amazones, il n'y a que des femmes au pouvoir, elles vont faire des lois, on va pleurer, nous les hommes. L'être humain, il est comme ça. Quand il domine, c'est par rapport à ses intérêts, par rapport à sa manière de vivre et de penser. Nous, on a de la chance, ça vient d'Allah. Allah, il ne tient ni avec les hommes, ni avec les femmes. Il n'est ni misogyne, ni misandre. Comprenez? Non. Vous savez pourquoi dans la plupart des mosquées on met les femmes d'un côté et les hommes d'un côté? C'est une histoire de pudeur, vous entendez? Une histoire de respect mutuel. D'accord? Dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: vous mettez les hommes devant, les femmes derrière. Le meilleur des rangs pour les hommes, c'est le premier des rangs, le plus proche de l'imam. Et le pire des rangs, c'est le dernier. Vous avez entendu les jeunes, hein? Parce que nous, les jeunes, quand on va dans le mosquée, on est toujours derrière. On laisse les vieux devant. Il n'y a pas de je lui laisse la place. C'est tu te bats pour avoir la place, la meilleure. Vous entendez? Dans la mosquée. C'est comme ça que ça marche, hein? C'est tu viens, tu squattes. Le premier rang. Oui, parce que le premier rang est le meilleur. Généralement, derrière, ça, hein, ça parle beaucoup. Vrai ou faux? Non, tu te mets au premier rang à droite. Le meilleur des rangs pour les femmes, c'est le dernier. Et le pire des rangs pour les femmes, c'est le plus proche des hommes. Donc, ce hadith, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il faut qu'il y ait entre les hommes et la femme, quoi? Il faut qu'il y ait un obstacle de pudeur, c'est ça? La pudeur qui mène au respect. Quand tu as de la pudeur, tu respectes. Vous allez dire, oui, mais c'est pas parce que on peut très bien être pudique et se respecter sans qu'il y ait un obstacle. Je suis d'accord avec vous, à 100%. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça que les mosquées étaient construites, il fallait les construire. Hein? Demain, on verra. Nous, quand on va construire des mosquées, est-ce qu'on va les construire en fonction de notre conception de la pudeur et du respect? Mais au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les femmes derrière, les hommes derrière, il n'y avait pas de rideau. Entre les hommes et les femmes, il n'y avait pas de mur. Donc, c'est pas un mal en soi le fait qu'il y ait un obstacle et un mur, mais le fait qu'il n'y en ait pas, c'est pas interdit. Au contraire, c'est peut-être même ça, normalement, qui devrait être fait. Mais si c'est pas fait, c'est pas la fin du monde. Et si les femmes se plaignent, par exemple, comme maintenant, quand il y a des interventions, elles ne voient pas. Ouais, elles ont du mal à se concentrer. Parce que quand quelqu'un parle, tu ne le vois pas, c'est wa'ar. Ouais, ton esprit, tout de suite, il divague. Il faut trouver des arrangements. D'accord? Que les hommes se rapprochent et que les femmes se mettent derrière, par exemple. Il n'y a pas de mal. Wallahu
a'lam. Une question intéressante sur un rapport homme-femme. Pour le salam entre hommes et femmes, comment faire?
Ah bah, salam alaikum. Je dis salam alaikum. C'est tout. Vous prononcez la salutation qui est le salam. Assalamu alaikum. Si vous voulez plus de hasanat, vous dites assalamu alaikum wa rahmatullah. Si vous voulez plus de hasanat, vous dites assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Maintenant, le contact physique entre les hommes et les femmes, est interdit, sauf si cette femme est une proche parente. Le contact physique entre les hommes et les femmes est interdit, sauf si c'est une proche parente, que ce soit dans la salutation ou autre chose. Si c'est ta mère, ta sœur, ta fille, ta femme, ta grand-mère, ta tante maternelle, ta tante paternelle, ta belle-fille, vous entendez ? Les femmes avec qui tu n'as pas le droit de te marier. Tu peux leur serrer la main, tu peux leur faire les bises, tu peux les prendre dans tes bras. Maintenant, toutes les autres femmes, tu leur dis salam alaykoum avec le cœur et avec la parole, sans qu'il y ait de contact physique, que ce soit serrer la main ou faire des bises ou la serrer dans les bras, parce que c'est pas comme ça que le prophète faisait. Ils ont dit de lui qu'il n'a jamais touché une femme sauf les proches, hein, il saluait. Et c'est dans notre intérêt que de faire exactement ce que le prophète faisait. Mais n'en faites pas non plus un drame, hein. Ouais, demain le médecin vient chez vous, elle vous tend sa main, ne lui dites pas. Non mais vous imaginez le choc psychologique et... Hein? Non, non, soyez sage, vous entendez? Parce que ce que tu veux faire, ton intention elle est bonne, mais les conséquences sont graves. Ouais. Surtout si tu lui dis je suis musulman, c'est haram en islam. Et tu t'arrêtes là, tu l'expliques même pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Elle va sortir de là et dans sa tête, elle dit ils sont tarés, ces intégristes, ces fondamentalistes. Non, le pire, c'est que certains ils disent non, moi je serre pas la main à une femme. Pourquoi? Parce que c'est dangereux, on sait jamais. Je vais dire mais pour qui vous prenez, monsieur? Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut se mettre dans la peau de l'autre. Il y a une manière de parler aux gens, et puis il y a des priorités. Hein? Il y a des priorités. Et si tu as serré la main à une femme parce qu'elle t'a tendu la main, tu n'as pas fait un grand péché. Hein? Tu as fait un petit truc qui n'est pas méchant. Tu fais le wudu, ça c'est vite effacé.
Quelle autre question alors?
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih rapporté par Muslim, liyamiyani minkum ovlinnuha ou linnuha wa tukha. Que si que ceux qui parmi vous sont plus calés et plus pieux se mettent derrière moi. C'est vrai à 1000%. Derrière, direct derrière l'imam, la règle c'est que les gens qui ont plus de compétences dans la religion se mettent derrière pour corriger l'imam quand il se trompe, que ce soit dans la lecture ou que ce soit dans l'exercice même de la prière, car il se peut qu'il le remplace, l'imam. Si jamais il tombe évanoui, si jamais il doit quitter la prière, il faut qu'il le remplace. Mais ça n'empêche qu'on se bat pour être devant, et normalement ces gens-là, ouais, ah, tu ne peux pas les devancer, ils sont déjà là avant toi. D'accord ? C'est mal proche.
Vous avez dit au début de la conférence que la fraternité a trois niveaux, avec la fraternité entre les mains, la fraternité entre gens de la même communauté, et quel est le troisième niveau ?
La prochaine fois.
Okay.
Troisième niveau, c'est la fraternité entre frères d'un même père, d'une même mère, c'est-à-dire la fraternité de sang.
Est-ce que les peintures sont déconseillées ou simplement haram pour les hommes ?
Tout dépend de l'intention. Hein, si vous teintez les cheveux avec une mauvaise intention, c'est haram. Hein, y a des hadiths qui disent que tu peux te teindre les cheveux ou la barbe, quelle que soit la couleur, sauf le noir. Hein? Puis il y a d'autres hadiths où il y a des gens qui se sont teints en noir. Et les savants expliquent en disant que c'est un problème d'intention. Et le mec qui a des cheveux blancs, des poils blancs, il commence à vieillir. Avant, on n'avait pas les dates de naissance. Donc, qu'est-ce qu'il faisait ? Il teignait les cheveux. Il se teignait les cheveux. Comme ça, il arnaque la jeune fille. Elle a 20 ans de skena, elle cherche un beau gosse. Et le mec, il vient, nickel, bien sapé, les cheveux bien noirs. Elle croit qu'il a 32 ans. En fait, il y en a 65. Ok ? Donc il faut faire gaffe. Tout dépend de ton intention. Hein, si ton intention n'est pas mauvaise, c'est pas grave. Si tu as une mauvaise intention, c'est pas bien. Et aujourd'hui, on pourrait mettre aussi dans la rubrique mauvaise intention, si tu essaies de te teindre ou de faire une coupe pour ressembler à des singes. Si, c'est la mode là. Hein? À un moment donné, la mode, c'était quoi? C'était des lettres de l'alphabet sur le crâne. C'est des W, des Z, hein, des Y. C'est le premier rigolo qui te fait quelque chose, nous, nos jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils plongent. Là, ils se font des... Voilà, la chore, il t'a coupé les cheveux, puis il fait des traits. Des traits partout. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça parce que vous avez vu l'autre faire et vous faites comme lui. Alors que le prophète, alayhi salam, a dit, faites le contraire des autres. C'est-à-dire, ayez votre indépendance. Ne soyez pas des moutons de panurge. Ne soyez pas bêtes et disciplinés. On vous dit, Jacques a dit, c'est ça? Lève la main, tu lèves la main. Jacques a dit, tu fais une autoroute ici, tu fais une autoroute. Un jour, j'ai vu un jeune, son survêtement, il avait remonté son survêtement jusqu'au genou. La jambe droite, la jambe gauche, non. Je lui ai dit, ton truc est remonté, tu ne peux pas le descendre. Mais non, je le sais, je fais exprès. Je lui ai dit, attends, t'as trop chaud. Ton tibia droit, il y a chaud, le gauche, il y a froid. Il me dit, bah non. Je lui ai dit, pourquoi tu fais ça alors? Il me dit, bah. La chore, il a fait ça. Il dit, moi, je ne savais pas. Hein, il m'a dit, mais alors, il est musulman. Un elkan. Hein? Un elkan, ça m'a fait, style footballeur, il montre son truc. Il m'a dit, c'est un musulman. Il a l'air de dire, j'ai pas fait quelque chose de pas bien, j'ai copié sur un musulman. Non, tu ne copies pas sur un musulman quand il fait une connerie. Vous comprenez, ici? Tu remontes un pantalon, tu baisses l'autre. Des trucs sans queue ni tête. Tout ça à cause de quoi? À cause de notre niveau intellectuel. Nos stars, nos références, ce sont les joueurs de foot, c'est ça? Les chanteurs, les stars d'Hollywood. On n'a pas. Notre référence, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Notre star, notre exemple, c'est le prophète. Non. Notre star, c'est quoi? C'est le premier rigolo qu'on met en avant, on lui fait sa pub, ou bien, je ne sais pas comment. Soyez libres, ne soyez pas des esclaves qui suivaient bêtement les gens.
C'est une question qui est là. Bonjour, la femme a-t-elle le droit de s'éveiller les sourds? C'est la question qui est
là. Donc ça à faire. C'est pas ça? Subhanallah. Je sais pas, c'est vrai, c'est une question qui revient, on dirait que c'est le bonheur, il est dans les sourcils. Ouais. En fonction de l'épilation, elle est bien ou elle n'est pas bien. Je sais pas si c'est si important que ça. Je sais pas, moi quand je me regarde dans le miroir, je regarde pas mes sourcils. Je vais me dire, bah oui, justement, nous les femmes, on regarde nos sourcils. Alors si tu regardes les sourcils, ma soeur, tu les regardes et tu les laisses comme ils sont. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit 5 femmes. Et parmi ces femmes se trouve celle qui s'épile les sourcils. Il n'y a qu'une femme qui peut s'épiler les sourcils. C'est celle qui a des sourcils qui ne sont pas normaux.
Ouais.
Ça veut dire quoi qu'ils ne sont pas normaux? Ça veut dire elle a des sourcils, c'est tout son front, par exemple. Non, pourquoi vous rigolez? Comprenez-moi. C'est-à-dire, il y a... Bon, les sourcils, on sait tous comment c'est. Mais il y a des gens qui ont, je ne sais plus comment on dit, un excès, c'est ça? Là, oui, là, tu peux enlever pour que ça devienne la moyenne. Mais faire comme font les autres, t'enlèves tout, tu mets un crayon. Il y en a même, ils mettent des faux sourcils maintenant, c'est ça? Ils enlèvent tout, ils collent un... Non. Pourquoi? Pourquoi le prophète, il dit, faut pas faire ça? Vous savez pourquoi? Pour dire à la musulmane, écoute, les plus importants ne sont pas les apparences. Ouais. Parce que vous allez vivre dans une époque, dans une société où on va vous dire que si vous voulez être bien dans votre peau, il faut passer une heure devant le miroir avant de sortir. C'est ça? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas ça qui fait le bonheur. Oui, il faut se faire beau, il faut se faire belle, je suis d'accord avec vous, mais avec des limites, et il ne faut pas que ça devienne une obsession.
C'est une autre question importante. Avons-nous le droit d'utiliser des crédits bancaires par exemple une maison, si on avait pas mis comprenant des intérêts?
Bon, ça c'est une question qui revient toujours. Faut arrêter de poser des questions quand vous connaissez la réponse. D'accord? Je ne sais pas ce que vous cherchez, vous voulez peut-être voir si je vais me contredire ou si je vais aller dans un sens ou dans l'autre. cette question, elle a été posée 1000 fois, vous avez 1000 fois entendu la réponse. D'accord ? Le crédit avec intérêt est interdit. Maintenant, il y a certains savants qui ont trouvé une parenthèse et qui ont dit dans la nécessité, dans l'obligation, l'interdit est levé. D'accord ? Point final. Ne demandez pas plus de détails parce que je ne vais pas vous les donner. Et si vous êtes dans une situation, vous voulez une réponse à votre problématique, vous entrez en contact avec un savant, vous lui soumettez votre problème, il va vous donner la réponse qui est adaptée à votre cas de figure.
Quelle autre question alors ?
Moi j'ai une question.
Bien. Bien.
Moi, je voulais savoir quand on se retrouve dans une ville où il y a deux mosquées différentes, on va dans laquelle. Surtout si on est français converti à l'islam, on va dans laquelle, parce que si on va chez les Algériens, on va lui dire Arki, si on va chez les Marocains, on va lui dire Arki, donc on met une mosquée.
Il se suicide. Ah, c'est un problème, hein. L'alim, c'est un problème. Moi, j'ai vécu ça, mon frère. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Mais j'allais dans la mosquée contraire. Moi, mes parents sont marocains, je suis d'origine marocaine. Ok ? Ben, j'allais dans la mosquée l'autre, soi-disant algérienne. J'allais pas dans l'autre. Parce que je considérais que le fait d'aller là-bas, je confirme. Je suis d'accord. Et je considère en fond de moi-même, je suis pas d'accord. Mais les gens, ouais, qui m'observent, qui m'écoutent, tiens, pourquoi il va là-bas ? Donc ça veut dire qu'il a du sang. Alors que moi j'ai du sang musulman. Donc j'allais là-bas. Ça ne m'a pas empêché d'aller parfois là-bas aussi. Et aujourd'hui, je n'ai pas de complexe à aller ici ou là. Alhamdoulilah, je n'habite pas dans cette ville. J'habite dans une autre ville où on a une mosquée qui est musulmane. Elle s'est convertie à l'islam, alhamdoulilah, le jour où elle est née. Et elle n'a pas de nationalité. La porte est ouverte à tout le monde. Elle est dirigée par des musulmans. Français, marocain, algérien, tunisien, chinois, portugais. Et c'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on demande. Donc à mon avis, peut-être la meilleure des solutions, c'est un coup ici, un coup là. Un coup ici, un coup là. Et toujours garder la même position. C'est, je suis contre cette division.
Concernant le mariage, c'est un mal pour moi, qui suis une femme, de chercher un mari, contrairement aux traditions qui veulent que ce soit un homme inconnu à la femme.
C'est pas un mal, c'est normal et c'est naturel. S'il n'y a personne qui vient frapper à votre porte pour demander votre main, alors c'est à vous de faire le pas. Sinon vous allez rester chez vous, vous allez devenir vieille fille, vous allez vous suicider. Ben oui, c'est logique. On interdit aux filles d'aller en boîte de nuit de draguer, ce qui est tout à fait vrai qu'il faut continuer. Mais le monséba, le malheur, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ne cherchent plus à se marier. Ils ne vont plus frapper aux portes. Parce qu'ils draguent. Et puis, ils passent du bon temps avec les filles. Ils les essaient, après ils les jettent. Et les filles sérieuses, ben, elles attendent les pommes. Elles attendent. Et le train, il n'attend pas lui. Donc, la solution, c'est quoi ? C'est que les parents pensent non pas uniquement à habiller, à nourrir, à soigner leurs filles, mais aussi à les rendre heureuses en leur cherchant ensemble, avec leur complicité, un mari qui va les chérir, qui va les rendre heureuses. C'est le travail des parents. Hein. Mais si les parents ne le font pas, pourquoi vous ne pensez pas à vos sœurs ? Tu vois ta sœur, subhanallah, elle a 25 ans, elle n'est pas mariée. Allez, je ne pense pas à elle. Bon, là, le cadeau, c'est une bouteille de parfum uniquement. Plus beau cadeau que tu puisses faire à ta sœur, tu sais, c'est quoi ? Si tu parles à ton copain que tu connais, qui est sérieux, que tu aimes bien, qui est super, tu lui dis, tu veux te marier ? Il va dire, bien sûr que je veux me marier. Tu lui dis, bah, écoute, ma sœur, elle est super, elle est magnifique. Tu fais une rencontre entre lui et ta sœur, ils s'entendent, ils se plaisent. Il rentre chez lui, il parle à ses parents et il débarque chez toi. Et il demande ta sœur en mariage. Et l'affaire est classée. Mais si vous ne faites pas ça, vous allez pleurer un jour ou l'autre quand vous allez rentrer chez vous, vous allez chercher votre sœur, elle ne sera plus là. Elle est où ? Disparue. Elle s'est tirée. Là, vous rigolez. Vous ne savez pas ce qui se passe dans les familles. Disparue. Sans adresse, hein, sans numéro de téléphone. Elle est partie avec quelqu'un. Donc, ce n'est pas un péché. Au contraire, c'est noble de votre part que de rechercher un mari. C'est le top des tops, puisque vous recherchez le halal. Vous recherchez à faire les choses dans les règles de l'art. Oui, beaucoup de femmes sont allées demander la main de certains hommes. Même si dans notre culture maghrébine c'est honteux, c'est harchouma, islamiquement parlant c'est pas honteux, c'est parchouma. C'est normal, c'est naturel.
Je pense qu'on a un mot de culturel.
Non, j'ai faim surtout. Ils ont faim. Moi ça va, alhamdoulilah. Avant de séparer des rendez-vous. Samedi prochain, pas demain, le samedi 4, à Ekodin, il y a le festival annuel des musulmans du coin. Donc vous êtes tous invités à partir de 18h, Inch'Allah. Il y aura comme invité Omar Lassan, qui est le recteur de la grande mosquée de Lille, le président fondateur du premier lycée de France, le lycée Averroès. Et normalement, c'est lui le président. Ça devait être lui le président du conseil régional du culte musulman. D'accord ? Lui qui devait représenter le culte musulman dans le Nord-Pas-de-Calais, mais avec les arnaques, les magouilles politiciennes, c'est pas lui, malheureusement, parce que lui au moins c'est quelqu'un d'intègre et un homme de terrain qui fait avancer les choses mieux que les autres. Donc il sera là, Inch'Allah, je vous recommande d'être présent pour écouter puis lui poser des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui et autre chose. Et dans 15 jours, le 11 mars, samedi 11 mars, il va y avoir Tariq Ramadan. D'accord ? Dans le coin. En fait, Tariq Ramadan, il devait être dans la région de Lille. Mais malheureusement, il n'y a pas de salle. Donc on va le déplacer, on va le ramener chez nous ici dans le Valenciennois. Ok ? Donc, ce sera dans une mosquée qui est proche d'ici. Vous avez intérêt de venir tout pour avoir de la place. D'accord ? Et l'entrée sera payante. Où ça? Ouais, pas loin, un truc comme ça. Ouais. Ah oui. À moins que votre mosquée soit plus grande. C'est laquelle la plus grande? C'est Rennes ou bien ici? C'est là-bas, hein? Ah, Chauvin. Ah, oui. Ah, ça c'est vrai. Ah, chauve. Un partout, la balle au centre. Quand le parking ici est plus grand. Ici c'est bien. Il y a 90% de chances, 99% en vérité, ça sera la mosquée de Sabatier-Rem, Inch'Allah. D'accord ? Donc vous êtes les bienvenus, hein, il y aura, ça sera une soirée, hein, on y passera toute la soirée, et on va le presser comme un citron, le faire parler, hein, pour profiter au maximum de sa présence. D'accord ? J'ai tout dit ? Ouais, ce sera, non, peut-être même avant la Isha, hein, ce sera aux alentours de... Au plaisir de vous retrouver, une autre fois, Inch'Allah. Tenez bon. Allah yahfoudkoum. Trop tard. T'as pas de chance. Allah yahfoudkoum. Tu la poseras à Tariq Ramadan dans 15 jours. Inch'Allah. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifoun. Wassalamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.